Paul Marguerite, La femme et la politique. Oui, la part des femmes en politique, pourquoi ne la réclamait-elle pas? D'ailleurs, ont-elles le choix? C'est ce que l'on ne se demande pas assez. Le choix, comment l'aurait-elle? Ce ne sont pas elles qui ont codifié les conditions de la vie moderne. Elles en sont les premières victimes. Ce n'est pas d'hier que Michelet a poussé son cri d'alarme devant ce qu'il appelait un sacrilège. La femme entrant dans l'arène, concurrente de l'homme au labeur, au salaire, lui disputant ce pain que de moins en moins il partage avec elle. La femme veut vivre, voilà tout, et c'est son droit. Elle n'a vécu jusqu'à présent que comme reflet, comme écho, comme esclave dans l'ombre de l'homme. Elle n'a pas eu de vie personnelle. Elle y prétend et elle ne réclame que son dû. La part des femmes, et si l'on y réfléchit, combien elle est mince encore, combien peu elles ont le droit de citer, leur droit légal, familial, leur droit humain. Loin de nous insurger contre ce qu'elles ont acquis, disons-nous bien que c'est fort peu de choses à côté de ce qu'il leur reste à acquérir. Voyons ce qui a conquis la femme et voyons tout ce qu'elle n'a pu conquérir encore et que délie l'orgueil masculin, la suprématie du plus fort de celui qui fait les lois et les applique. La femme, c'est le fait primordial, est entrée dans l'enseignement. Elle s'est fait reconnaître comme éducatrice. On l'avait vue femme de lettres, actrice, ouvrière du luxe ou de la peine, commerçante, infirmière. On l'avait vue peintre, sculpteur. On l'avait vue courtisane. On n'avait pas encore vu professeur. Elle l'est. Mais depuis combien de temps? C'est en 1869 que la première candidate au baccalauréat se fit renvoyer durement à ses travaux ménagers que l'Arnolphe de Molière assigne à la femme, couture, broderie, etc. C'est de 1881 que date la fondation des lycées de jeunes filles, ou 1986 seulement, que les femmes admises 18 ans plus tôt à la faculté de médecine, concourant pour l'internat. En vérité, c'est d'hier. D'hier qu'elles sont doctoresses, avocates. D'hier qu'elles travaillent à l'école des Beaux-Arts et à la Villa Médicis. Leur victoire, on les chiffre moins à la quantité qu'à la qualité. Comme tant d'hommes détenant place, fonction, honneur, on cite une femme qui, par miracle, grâce à un ministre libéral, représente ses millions de compagnes dans les assemblées de choix. On cite en 1888 une femme qui entre au Conseil supérieur de l'instruction publique. En 1900, une autre qui pénètre au Conseil supérieur du travail, au ministère du commerce. Une encore, féministe éminente, prend part aux travaux de la commission extra-parlementaire du régime des mœurs. D'autres deviennent membres du Conseil supérieur de l'assistance et de l'hygiène. Et Madame Curie a professé à la Sorbonne. Exception. En revanche, si la femme peut défendre en justice une cliente ou un client, elle est inapte à juger. Toute sa connaissance du droit ne lui permet pas de passer de la barre au tremplin du tribunal. Et quand a été créée la grande commission de révision du Code civil, on a vu cette iniquité. Aucune femme ne venant s'asseoir à cette table d'hommes, d'hommes légiférant sur des femmes. La femme peut être témoin dans les actes de l'état civil, mais elle n'a point qualité pour les dresser, les enregistrer, les prononcer. Elles ne sont ni secrétaires de mairie, ni adjointes. Pour une à la Sorbonne, en est-il à l'Institut ? Certaines, dont le nom vient à l'esprit immédiatement, dépareraient-elles l'Académie française ? N'y tiendraient-elles pas avantageusement la place de telle ou telle ? Combien sont chevalières de la Légion d'honneur ? Combien ont la rosette ? Ceci pour les titres officiels. Au point de vue de sa capacité civile, n'est-il pas invraisemblable que la femme, en se mariant, abdique sa personnalité du regard de son mari et de ses enfants, devient la première servante de la maison. N'est-il pas révoltant qu'elle soit dans son ménage, sans pouvoir, sans argent, sans droit, dépossédée de son âme et de son corps? Au point de vue politique, son rôle est nul. En vain, deux projets de loi ont-ils été déposés et demeurent enterrés sous la poussière et l'oubli. L'un proposait d'admettre aux élections municipales, cantonales, législatives, les femmes célibataires, veuves et divorcées. Un autre, en 1906, plus libéral, appelait au vote les femmes mariées, mais restreignait leur voix aux élections des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement et des conseils généraux. En vain, le Conseil national des femmes organisait-il jadis un vaste pétitionnement qui ralliait l'appui du comité central de la Ligue des droits de l'homme, soit 73 000 adhérents. La femme française, mineure en son foyer, reste mineure en l'État. Mais patience! S'il est vrai que l'union fait la force, cette vérité servira surtout aux femmes et à leur merveilleux pouvoir d'action, de propagande. Les ruches se réveillent, les fourmilières s'agitent. Aujourd'hui, les femmes de presque tous les pays ont une arme de revendication. C'est le Conseil international qui, en 1888, naquit d'un congrès à Washington et d'un autre à Chicago en 1893. D'année en année, le Conseil international des femmes, constitué par un bureau de 7 membres et tenant des assemblées quinquennales, a vu s'affilier les groupements féministes constitués dans chaque pays en Conseil national. D'abord le Canada, puis successivement la représentation des femmes suédoises, anglaises, celle de la Nouvelle-Zélande. Puis ce fut le tour de la République argentine, de la Suisse, de l'Autriche, de la Norvège et de la Belgique. En 1906, 21 conseils nationaux étaient entrés dans cette confédération des intérêts féminins. L'avenir est là. On l'a vu au congrès de Londres, de Berlin, au congrès interquinquennal de Paris. On le verra de plus en plus, le jour où la femme, qui, jeune fille ou mariée, ne peut disposer de son argent, pourra, grâce à de plus justes lois, disposer de ce qui lui appartient et les mettre au service de la cause commune. On saurait nier la magnifique éclosion d'idées, le mouvement que par la presse, les revues et les journaux féministes, les conférences, les groupements, sociétés, congrès de toute nature ont affirmé en ces dernières années les efforts de la femme française. Là, l'élite remplace le nombre. Mais le nombre viendra, soyons-en sûrs, à l'élite par l'élan invincible des circonstances. Souvent, à la mesure lenteur du progrès, on ne mesure pas la marge des grands mouvements économiques et sociaux. On entend des craquements, on voit des fissures, et l'on perçoit bien qu'un grand fleuve souterrain circule. Tel est le destin de la poussée féministe. Elle s'amasse, elle s'accroît, elle rallie les hésitantes, elle fait corps avec toutes les faibles, et elle se lance autour des révoltés. Bientôt le fleuve crèvera de terre, et la femme aura accompli sa révolution.
La voix des femmes. Parviendront-elles, après la guerre, à se faire entendre? Amèneront-elles l'opinion, le Parlement, à leur reconnaître ce droit de suffrage, ce droit de vote et d'éligibilité qui devient peu à peu, pour toutes les classes féministes, le but commun? Que la femme doive pouvoir voter une fois remanié le suffrage universel, ça ne fera aucun doute pour ceux qui reconnaissent en elle l'égal ou l'équivalente de l'homme. Comme lui, elle pense, comme lui elle vaut et surtout, comme lui elle travaille. C'est là son titre indéniable, ses véritables lettres patentes. C'est ce qui lui donne titre à parler, c'est ce qui l'autorise à prendre sa part des responsabilités civiques, puisqu'elle assume elle aussi sa part des charges économiques. 6 millions de femmes, avant la guerre, exerçaient une profession. Et combien plus? À présent, 6 millions de femmes, chiffre déjà énorme, maniaient l'aiguille, la plume, les mouchoirs, le livre d'enseignement, le scalpel, le code, les leviers, les volants, les manettes à l'usine, la machine à écrire dans les bureaux, la bêche et la brouette au champ. Quel monde sur les planches règne d'un soir, ou quelle récure des casseroles les mijotent leur ragoût, servantes de tous étages, qui de leurs doigts agiles elles confectionnent le chapeau coquet ou la robe harmonieuse. Quelle zone du ruban où aident les bébés à naître. 6 millions de femmes en temps normal luttent, triment, gagnent leur pain, et quelques-unes la briochent au prix de leur labeur. Et combien là-dessus ne gagnent même pas avec les chômages et les mortes saisons, sans parler des grèves, de quoi manger à leur faim? Dites-vous que près de 3 millions de paysannes se courbent sur la terre, qu'on compte près d'1 million de domestiques femmes, près d'un autre de couturières de divers métiers, près d'un autre encore d'ouvrières d'usine. Le solde se compose de milliers et de milliers d'institutrices, d'employés, de modistes, d'accoucheuses, de quelques centaines de doctoresses, d'écrivains, d'artistes. Refusera-t-on ces laborieuses le droit de choisir des mandataires conscients ou conscientes de leurs intérêts? Et n'ont-elles pas le droit et le devoir de s'intéresser aux grandes questions d'assistance ou de protection de l'espèce, qui pour elles particulièrement sont des questions vitales? Après l'admirable labeur fourni pendant la guerre par les femmes françaises, après l'organisation civile et militaire des femmes anglaises, conquérant ainsi de haute lutte leurs droits de suffragettes, il est superflu de revenir sur les raisons de principe qui militent en faveur du suffrage des femmes. Assez de faits acquis démontrent que les femmes peuvent voter avec sagesse, sans nuire à leur rôle familial, et qu'elles seront les meilleures artisanes du progrès social. Le suffrage des femmes en France n'est point au surplus la nouveauté qu'on croit. Elles ont voté pour les États généraux et exercé ce droit par procureur, il est vrai. Les noms des femmes côtoient ceux des hommes sur les listes électorales des États généraux de 1789. Elles ont figuré aussi aux assemblées communales, en raison du rang qu'elles occupaient dans la commune, la ville ou le fief. En 1848, elles ont réclamé leurs droits, puisque le suffrage universel a été accordé aux hommes. Reproduira-t-on le sot argument que la femme ne paye pas l'impôt de la guerre? Mais d'une statistique d'ailleurs délicate et complexe à établir, il semble résulter que la maternité, le plus périlleux des devoirs et le plus lourd, a sacrifié 5 à 6 fois plus de femmes qui n'est tombé d'hommes sur le champ de bataille. Ceux qui refusent aux femmes le bulletin de vote, sous prétexte qu'elles ne paient pas l'impôt du sang, devraient logiquement accorder de 5 à 10 bulletins supplémentaires à chaque mère. N'est-il pas extraordinaire de penser que le suffrage universel met le bulletin de vote dans les mains d'une masse d'esprits ignorants, d'alcooliques, d'êtres immoraux et tarés, et qui le refuse à des milliers de femmes courageuses, laborieuses, force de la race et soutien véritable du pays? Songez donc qu'en Angleterre, il y a déjà 312 doctoresses, 190 médecins, femmes dentistes, 10 vétérinaires, 380 journalistes, 98 agents de change, 455 huissiers, 3680 peintres, photographes ou dessinateurs attachés à la presse. Songez qu'en Amérique, dans les compagnies de chemin de fer, des femmes sont chefs de traction directrices, membres actifs des conseils d'administration. Il n'est que de constater ce qu'elles ont fait dans le pays où elles votaient il y a déjà 10 ans. Les résultats sont d'une rare éloquence. Aux États-Unis, le droit de vote politique fut accordé aux femmes dans quelques États de l'Ouest. Mais c'est à la Nouvelle-Zélande et en Australie que le mouvement a pris le plus d'ampleur. Dans ce dernier pays, l'influence des femmes a fait voter une excellente législation pour la protection des ouvrières. Journée de 8 heures, hygiène exemplaire, salaire suffisant. L'influence des femmes a fait améliorer la législation des industries pour les hommes eux-mêmes. Elle a contribué à la protection des enfants, au relèvement du niveau moral du peuple, à la lutte contre l'alcoolisme et la passion du jeu, à la grande œuvre humanitaire des retraites générales pour la vieillesse, qui, sur le budget de l'État et sans contribution des intéressés, doit assurer une retraite à tous les Australiens âgés de plus de 65 ans. Dans la Nouvelle-Zélande, le suffrage des femmes, dû à Sir Robert Stout, a exercé la plus heureuse influence. Il a instauré une législation anti-alcoolique dont pourrait s'inspirer le législateur, et en vertu de laquelle la plupart des districts ruraux ont voté l'interdiction absolue de la vente de l'alcool. Les villes ont suivi peu à peu l'exemple, et dans un temps prochain, grâce aux femmes, l'alcoolisme et ses terribles dangers auront vécu à la Nouvelle-Zélande. En Europe, les femmes votent. En Finlande, elles votent en Norvège. L'expérience faite en Finlande n'a pas été moins rassurante que dans le Nouveau Monde. Là encore, les femmes ont fait voter l'interdiction absolue de la vente de l'alcool, fixer à 8 heures la journée de travail dans la boulangerie, discuter un grandiose projet d'assistance maternelle, d'après lequel les mères nécessiteuses resteraient salariées 6 semaines avant et 8 semaines après l'accouchement, tout en cessant leur travail. En 1907, 19 femmes ont siégé à la Diète finlandaise et 25 en 1908. Parmi ces députés, on trouvait une inspectrice du travail, une directrice du bureau de placement ouvrier, 6 institutrices, 5 couturières, une blanchisseuse, 2 domestiques, 2 ouvrières de fabrique, une ancienne étudiante et une doctoresse. La moitié de ces députés sont des mères de famille ou des femmes mariées, qui attestent ainsi la compatibilité de leurs fonctions politiques avec leurs fonctions maritales ou maternelles. Voilà donc ce qui est établi. Aux deux bouts extrêmes du monde, mus par le même instinct de solidarité généreuse, les femmes ont fait voter la protection de l'ouvrière et de l'ouvrier, l'abolition de l'alcoolisme, ont réclamé la retraite pour la vieillesse et l'assistance aux mères. Que répondre à cela? Il ne s'agit pas de plaidoiries pour ou contre, d'incursions en utopie. Nous nous trouvons devant des réalités. Et je ne parle pas d'autres revendications, comme en Finlande le droit à l'héritage pour les enfants naturels, des peines sévères pour les mauvais traitements infligés aux enfants, l'extension des droits de la femme mariée, la création par les communes d'établissements d'éducation pour les enfants pauvres et abandonnés, etc. Toute mesure inspirée d'un esprit noble, d'un sens élevé de la justice. Mais si aucune des craintes que l'on pouvait avoir ne s'est justifiée, si la famille n'a subi aucune atteinte, si on n'a pas vu le mari et la femme séparés d'opinion, ou la femme désertant son logis pour courir les clubs alors que ses marmots baillent ou que le rôti brûle, si, crainte plus sérieuse, on n'a pas vu les suffrages féminins modifier l'orientation politique, en revanche, on a pu mesurer les bienfaits de leur immixtion dans la vie publique. Le régime parlementaire s'en est trouvé assaini du coup, relevé comme niveau moral. Peut-être le rigorisme des femmes australiennes a-t-il été un peu excessif dans son traditionnalisme, puisqu'elles n'ont admis comme candidat que des époux et des pères de famille irréprochables, excluant ainsi de la vie publique quelques personnalités de valeur dont la vie privée était indépendante. Mais ce sont excès où le mieux est l'ennemi du bien. Cela se tassera. Les femmes deviendront de plus en plus libérales, affranchies des normes rigoureux ou des morales trop étroites. Ce qu'elles ont fait déjà est admirable. On ne sera jamais assez. On ne dira jamais trop. Elles ont conquis par là, pour leurs sœurs de tout pays, le bulletin de vote mondial.